pharefm.com/bible.
Let our voices rise up from the valley below. Be free from the sorrow. Let your spirit illuminate every shadow. Be the light as we let go. Hands lifted to you, 'cause your promise is true. Ooh, I, we won't stop singing in the darkness. We won't stop singing till the night is gone. You've given us a new song, and our praises are breaking the dawn. We won't stop singing. Disappear with the moon and stars, waking up to a new start.
Go with the gun.
Fambala, ce spirit sur Phare FM, il est 4h passées, c'est Phare FM qui vous accompagne. Et si le réveil vient de sonner, eh bien bon courage pour la journée, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Allez, ça va passer, ça va même bien se passer. J'espère en tout cas que vous allez bien, c'est Phare FM qui vous accompagne avec de la musique. Et puis pour bien démarrer votre journée, quelques moments pour réfléchir au vrai sens de la vie. Tout à l'heure, pain de vie, et puis on entendra également la parole du jour, les langages de l'amour et puis la musique avec Benson Boone, maintenant Beautiful Things. Et puis comme promis, pain de vie avec Claude Gréder, notre adoration, l'enjeu universel sera le thème. Merci de rester avec Phare FM, très bonne écoute.
Minuit 5h, la nuit autrement
avec Mireille.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Claude Gréder.
Je vous invite à prendre vos Bibles. Et on l'ouvre dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Mais si tu es fils de Dieu, allez, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ou tu ne provoqueras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et on remarquera au passage, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ce texte a été médité moult fois. Je voudrais m'arrêter sur la troisième tentation et sur cette pensée provocatrice que le diable adresse à Jésus en lui disant « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » On citera ce texte que Jésus adresse à la Samaritaine après leur discussion théologique. Il dit « Mais ce que le Père demande, ce que le Père souhaite, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. » Quelque part, j'ai l'impression que ce texte de la tentation de Jésus culmine avec l'enjeu ultime, qui est de savoir qui est-ce qu'on adore. Dieu cherche notre adoration à nous, mais le diable aussi cherche notre adoration à nous. Là, c'est Jésus, le Dieu fait homme, qui est invité à plier le genou devant le diable et à l'adorer. Je voudrais un instant, peut-être, méditer cette pensée sur l'enjeu de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? Quelles sont les conséquences de l'adoration, etc. Et puis finalement, à se poser une question ultime, qui est-ce que j'adore ? Ou qu'est-ce que j'adore ? Parce que voyez-vous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le fasse consciemment ou non, qu'on soit religieux ou non religieux, nous sommes nés pour adorer. Nous avons été créés ainsi et nous adorons continuellement, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Que vous soyez de longue date dans cette église ou que vous soyez la première fois dans une église évangélique, je vous le déclare, vous êtes des adorateurs. Vous avez été câblés pour ça. Vous avez été fabriqués pour adorer. Et nous tous qui sommes sur terre, tous les jours, tout le temps, partout, nous adorons. Voyez-vous, adorer, c'est pas un truc qu'on fait comme on l'a fait il y a un instant. C'est pas un truc, un machin qu'on fait comme ça qui vient avant la prédication. Non, non, adorer, c'est plus quelque chose qu'on est qu'une chose qu'on fait. Mais il y a comme ça des lieux d'adoration. Les arènes sportives sont des lieux d'adoration. Et on dépense des fortunes. On va à l'autre bout du monde pour assister à une finale de Coupe du Monde. Rien de mal à cela, mais quelque part, ça correspond à un besoin de l'être humain d'adorer, de s'exalter, de s'enthousiasmer pour quelque chose. Prenez avec moi le texte de l'Apocalypse. Apocalypse 5, versets 8 et 14. Je voudrais qu'un instant, on puisse faire un effort d'imagination. Apocalypse 5, on est dans l'au-delà. On est devant le trône de Dieu. On est dans un paragraphe très symbolique, où il y a pas mal de symboles, où les 24 vieillards représentent à la fois les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, c'est-à-dire l'Église de tous les temps. Et puis il y a les anges, et puis il y a des êtres bizarres, les animaux, enfin bref. Il est marqué là, pendant que je vous le lis, que vous puissiez faire un effort d'imagination. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation et de tous les coins de France et de Navarre. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades. Imaginez un instant ça. Ils disaient d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais peut-être qu'ils avaient aussi des haut-parleurs et des micros et une scène avec des lumières. Ceci dit, il y a des fois des endroits où on parle d'éclairs qui sont là autour du trône. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Imaginez un peu la scène. Ça ressemble étrangement au Stade de France, un gros groupe de rock arrive et c'est tout plein. Ou aux Eurockéennes, pas trop loin d'ici, où les foules entières s'embrasent, des milliers s'embrasent pour une soirée. Et ils sont en communion les uns avec les autres. Et avec l'artiste qui est devant, mais qui malheureusement dans quelques années disparaîtra aussi vite qu'il est venu. Si c'est pas tôt, il partira tard, parce que lui aussi n'est qu'un mortel. Mais je voudrais juste un instant qu'on puisse se rendre compte que quelque part, l'être humain a été créé pour adorer, pour s'exalter, pour s'enthousiasmer. Et souvent, il adore sans le savoir. L'histoire de l'humanité prouve la présence de myriades d'idoles diverses et variées. Aussi loin qu'on puisse reculer dans le temps et analyser les civilisations, on trouve des gens qui prient. Mais ils prient. Chez moi à la maison, j'ai un petit chat qui en a fait 5. Enfin bref, j'en ai pas vu un de ces 5 me faire une prière. Au fond du jardin, j'ai 4 poules. Il n'y en a pas une qui le dimanche va à la messe ou au culte. Elles restent dans leur jardin, il n'y en a pas une qui prie. Mais l'être humain, où qu'il soit, partout, en tout temps, en tout lieu, il prie. Ou alors il mène des combats, et puis il prie la gloire humaine, et puis il faut inscrire son nom dans l'histoire. On cherche cette gloire que Dieu nous a enlevée le jour où Adam et Ève ont chuté. Nous avons été faits pour adorer. Colossiens 1, verset 16 dit, « Tout a été créé par lui, et surtout pour lui. » Au fond de l'être humain, il y a une espèce d'aimant, et toujours à nouveau nous ramène vers ce... On sent qu'il y a un truc qui nous manque et on cherche à le trouver. Et ceux qui ont trouvé Christ ont trouvé la réponse. Et les autres cherchent encore. Alors on adore un peu tout et n'importe quoi. On est prêt à adorer n'importe quoi parce que c'est un besoin inhérent d'adorer quelque chose, d'adorer quelqu'un. Blaise Pascal disait, il y a au fond de nous un vide en forme de Dieu. Et ça fait un bout de temps que je réfléchis à l'adoration. Ce texte de Jean 4, où Jésus dit « Ce que Dieu cherche sont les adorateurs en esprit, en vérité », ça fait longtemps que j'y réfléchis. Et depuis quelque temps, des pensées me sont venues. Et encore récemment, j'ai croisé des amis qui avaient un livre qui traînait sur la bibliothèque et je l'ai pris. Et ça parlait, et monsieur me disait exactement ce que je disais là. Je trouvais ça intéressant. Mais nous avons besoin, nous avons été créés pour adorer. On retient ça ? Question, c'est quoi l'adoration ? Bonne question ! Voici une réponse simple. Qu'est-ce que adorer ? C'est ma réaction à ce qui, pour moi, a le plus de valeur et le plus d'importance. Je répète ça ? Adorer, c'est tout simplement ma réponse, ma réaction à ce qui, pour moi, a le plus de valeur et le plus d'importance. Autrement dit, c'est la personne, ce sont les amis, c'est le rêve, c'est l'expérience, c'est le hobby, c'est ce quelque chose, c'est ce n'importe quoi qui a le plus de valeur pour moi. C'est ce qui a finalement la première place dans ma vie. C'est ce qui aura ma préférence au-dessus de tout. Je répète ça. L'adoration, c'est ma réponse à ce qui pour moi a le plus d'importance. Ça peut être une personne, un mari, une femme. Ça peut être un job. Ça peut être un diplôme. Ça peut être un projet. Ça peut être la culture, la musique. Ça peut être la peinture. Ça peut être n'importe quoi. C'est ce qui pour moi aura la première place dans ma vie. C'est ce qui, en toute chose, aura ma préférence. Pour les uns, c'est la télévision. Pour les autres, c'est Internet. Pour les autres, c'est encore d'autres choses qui ne sont devenues par contrainte, finalement. On y a goûté une fois, deux fois, et à la fin, on y est accroché. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être l'addiction à la pornographie. Ça peut être tellement de choses qui, finalement, occupent ma pensée, occupent mes émotions, occupent mon temps, occupent mon argent, occupent ce que je suis. Alors comment connaître l'objet de mon adoration ou la personne que j'adore ? Nous avons chanté « je t'adore, vraiment ?» Question, vraiment ? Comment connaître l'objet de mon culte ? Très simple, suivez le sentier de votre emploi du temps. Suivez le sentier de vos affections. Suivez le sentier où vous dépensez toute votre énergie. Suivez le sentier de vos dépenses financières, suivez le sentier de votre fidélité, votre allégeance à quelque chose, et au bout du sentier, il y a un trône, et sur ce trône, il y a un occupant. Et cet occupant, c'est ce que vous, c'est ce que moi, j'adore. Chacun de nous a au fond de soi, dans son cœur, un autel sur lequel il y a un trône. Et sur ce trône, il y a un occupant qui peut varier au fil du temps, mais il y a toujours un occupant et qu'un seul. C'est pourquoi le diable a demandé à Jésus, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Qu'un seul adorateur, qu'un seul objet d'adoration. Le diable a dit en substance, Jésus, donne-moi ta préférence. Donne-moi ton cœur. Et tout le reste, je te donne. À ce propos-là, d'ailleurs, cette question a été posée à Abraham dans Genèse 22. Donne-moi ton fils. Tu dis à Abraham, donne-moi ton fils. Il aurait pu dire, mais Seigneur, j'en ai deux. Ton unique, j'en ai deux, Seigneur. Celui que tu aimes, j'aime les deux. Virgule, Isaac. Et c'est la première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible. Genèse 22, verset 5. En fait, Abraham avait percuté. Il avait compris que ce que Dieu cherchait, ce n'était pas tant la vie de son fils que la priorité, la première place dans le cœur de son serviteur. Il avait beau être serviteur depuis des années. Le danger nous guette tous, c'est qu'à un moment donné, on est même capable d'adorer l'œuvre que Dieu nous donne de faire. Or, ce que Dieu veut, c'est pas cette salle-là. Ce que Dieu cherche, c'est que nous l'adorions lui et lui seul. Je suis épaté par l'apôtre Paul dans Philippiens 3, versets 7 à 8, où Paul dit une chose absolument extraordinaire. Dans la version selon second, elle est un peu, je dirais, pas cachée, mais je vous la laisse afficher et je lis celle de Parole de vie. Écoutez voir. Paul parle à l'église de Philippe. Il écrit un courrier. C'est une église qu'elle a beaucoup soutenue. C'est la première église européenne. Une ville de garnison romaine. Et il y a trouvé des gens avec des cœurs ouverts et qui se sont convertis. C'est une belle église. Et Paul a après continué à traverser la Péloponnèse. Il a commencé à établir une église à Éphèse et puis aussi à Corinthe. Et puis ça a continué. J'écoute Paul et il dit la chose suivante au verset 7 et 8. En parlant de ce qu'il avait été, un circoncis, un éduqué, un érudit dans la loi juive, etc., il dit, mais toutes ces choses, je les ai considérées comme de la boue. J'ai cru gagner beaucoup à ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Et moi, je me suis dit, et si maintenant, moi, j'avais été l'écrivain de cette lettre, qu'est-ce que j'aurais écrit? Peut-être j'aurais écrit ceci. Faire avancer le royaume de Dieu, faire se multiplier les églises, faire se développer les croyants, faire grandir l'église dans tout le bassin méditerranéen, voilà le plus important. Et Paul dit non. Le plus important pour moi, c'est de connaître le Christ. C'est de le connaître lui et lui seul. Parce que tout dépend de là. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc l'important pour chaque croyant, c'est de connaître le Seigneur. C'est finalement de l'adorer. Parce que voyez-vous, l'adoration, ou plutôt selon ce qu'on adore, la direction de notre vie change énormément. Dans 2 Rois 17, verset 15, c'est mon troisième point. On est dans un temps où le rédacteur de ce livre fait un bilan. Osée, le dernier roi d'Israël, a été déporté. Il cherche les raisons pour lesquelles il y a eu une déportation. Et au chapitre 17 et au verset 7, il dit la chose suivante. Ces événements arrivent parce que les Israélites ont péché contre le Seigneur, leur Dieu. Pourtant, c'est lui qui les avait délivrés du pouvoir du Pharaon, le roi d'Égypte, et qui les avait fait sortir de ce pays. Mais ils ont adoré d'autres dieux. Et au verset 15, il est dit, Dieu leur avait donné des lois. Il avait fait alliance avec leurs ancêtres. Il leur avait donné des conseils. Mais les Israélites ont rejeté tout cela. Ils ont suivi des faux dieux qui ne valent rien. Et ils sont devenus eux-mêmes des gens qui ne valent rien. Une autre version dit, ils ont adoré des dieux inconsistants et ils sont devenus eux-mêmes des gens inconsistants. Psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Ils leur ressemblent tous ceux qui se confient en elles. Voyez-vous, je pense honnêtement qu'on ressemble toujours à ce qu'on adore. Vous avez déjà vu des gens qui adorent une idole musicale? À la fin, ils s'habillent comme elle. Même coiffure, même habillement, même style, même look. C'est incroyable. on ressemble toujours à ce qu'on adore. Mais selon ce qu'on adore, on lui ressemble. Et les femmes, nous avons fait des choses terribles. Parce que, voyez-vous, nous avons tous au fond de nos vies, la société aussi, ont créé des veaux d'or. Par exemple, le veau d'or du confort. Et pour des raisons de confort, il y a des messieurs, il y a des jeunes gens qui ont obligé et poussé leur fiancée enceinte à aller avorter. Et on les a rendus meurtrières et on est devenus complices de meurtre, nous aussi. Bien-aimés, adorer le Dieu de la Bible, c'est devenir un homme et une femme dignes de ce nom. Ce sont des gens qui marchent debout, qui marchent la tête haute, le cœur léger. Adorer le Dieu de Jésus-Christ, ça élève l'homme dans sa dignité. Adorer le Dieu de Jésus-Christ, ça élève les gens dans leur dignité humaine. Adorer autre chose que Dieu, c'est devenir des gens inconsistants. Nos pays ont adoré la cupidité, l'argent facile, l'argent rapide, et maintenant on paye le prix fort. Parce qu'on a adoré l'argent facile, on était prêt à payer le prix le moins cher, peu importe si à l'autre bout du monde des gens travaillent 70 heures par semaine. On n'en a rien à faire. Mais nous sommes devenus des gens inconsistants. On a fait un retour vers la jungle. Enlever l'évangile, c'est le retour vers la jungle. Les gens sont devenus esclaves de leurs instincts de bas étage. Une forme de bestialité, une dureté de cœur. Parfois, c'est la dépravation qui est avancée. Bien-aimés, cette cupidité qui nous touche de si près tout le monde est la racine de tous les maux de la Bible et elle est omniprésente. J'aimerais nous rappeler, nous ressemblons toujours à ce que nous adorons. Si vous adorez la mode, votre porte-monnaie se videra là-bas et vous lui ressemblerez. Alors ça a l'air très fun et très clean et très beau. Mais ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi il y a une mise en garde contre le danger. Lorsque Israël a déménagé dans le pays Canaan, Dieu leur a dit, surtout n'imitez pas ces peuples. C'est parce qu'ils ont adoré des choses vaines, des idoles que je les ai chassés devant vous. C'est pourquoi ne les imitez pas. Mais Israël, toujours à nouveau, les a imités. Et finalement, ils sont partis en déportation. Le problème de fond, c'est un problème de l'objet de l'adoration. Nous faisons des échanges des fois. Et parfois, c'est très très sournois. Nous pouvons être ici, et moi y compris, je suis en train de dire vous, nous, je m'inclus. Et chanter des cantiques d'adoration absolument fantastiques, vivre la présence de Dieu. Mais au quotidien, nos actes, nos dépenses, le temps que nous employons, nous prouvent que nous adorons autre chose. Le danger, c'est l'échange que nous faisons. Romains chapitre 1, on pourrait lire ça, Romains chapitre 1, verset 18. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création, quand on regarde la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir. Ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. Ils ont échangé l'objet de l'adoration. À cause de cela, verset 24, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient. Et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. Et cet échange d'objets d'adoration peut se faire aussi vite que de passer le seuil de la porte ici. Et tout le problème, c'est de rester un adorateur. Verset 26. Parce que voyez-vous, selon ce qu'on adore, il y a des conséquences. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. L'homosexualité n'est pas un produit de la société, c'est un jugement de Dieu sur le pays. La Bible dit que la raison profonde, c'est qu'on a échangé l'objet de l'adoration. Au lieu d'adorer le Créateur, on a commencé à adorer la créature. Il y en a qui dépensent un fric fou pour leur corps, pour leur beauté, pour plaire. Tout tourne autour d'eux. C'est le moi, c'est le culte du corps, ou le culte de l'hédonisme, le plaisir sous tous les sens. Le plaisir du palais, le plaisir des yeux, le plaisir intellectuel, le plaisir de manger, le plaisir de la chair, etc., etc. Mais ces choses-là ont des conséquences. Et tôt ou tard, on paye le prix. Parce qu'à la fin, il y a toujours une addition à payer. Lisons ensemble verset 28. Romains 1. « Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants. Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent. Ils se disputent. Ils trompent les autres. Ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens. Ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. » Ça décrit à peu près les temps actuels. Le problème de fond n'est pas juste l'abandon d'une bonne morale. Le problème de fond, c'est qu'on n'adore plus Dieu. C'est qu'on a abandonné une adoration profonde de Dieu qui est plus que chanter dimanche matin ensemble « Je t'adore Seigneur », même si c'est tout à fait à sa place et c'est juste et c'est bon et je valide à 1000%. Le problème de fond, notre société a échangé le Dieu, Jésus-Christ, par d'autres divinités. Moi, mon corps, mes loisirs, ne touche pas à mes loisirs, s'il te plaît. Ma carrière, mes gains à tout prix. Il faut absolument avoir du 15% de rendement pour mes actions ou mes obligations. Comment voulez-vous faire un 15% de rendement avec une croissance de 2%? C'est impossible. Alors on le fait quand même. Comment est-ce qu'on le fait? Ben on réduit les effectifs. Vous avez compris que selon ce qu'on adore, ça a des conséquences même sociales, sanitaires. Or, ce que Dieu cherche pour nous, ce que Dieu veut pour nous, mon ami, c'est qu'en l'adorant lui, on trouve le bonheur, le vrai bonheur. Dans un texte d'Ésaïe, Dieu plaide avec son peuple et il lui dit « Oh mon peuple, si tu m'écoutais, si tu m'adorais, ton bonheur serait comme un fleuve. » C'est pas beau ça? Ton bonheur serait comme un fleuve. Bonheur financier, bonheur familial, bonheur sociétal, le bonheur tout court quoi. Le but ne laisse pas nous aliéner ou nous rendre malades, le but c'est qu'on soit heureux. Problème de fond, c'est qui est-ce qui est sur le trône de mon cœur? Qui est-ce que j'adore? Parce que l'enjeu ultime, c'est notre adoration continuelle, ce que Dieu veut. C'est que notre vie soit un chant continuel de louange. Mais que votre vie, que ma vie, soit un chant continuel du dimanche au dimanche. Dans les moments de communion avec lui, dans la chambre haute, ou dans la communion ensemble, mais aussi dans la vie de tous les jours. Même quand je fais la vaisselle. Ou que je roule en voiture, ou que c'est mon boulot au bureau. Adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Hébreux 13, versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je vous lis cette version-là. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Mais le verset suivant dit la chose suivante. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Autrement dit, adorer Dieu, c'est pas seulement chanter, c'est aussi chanter, mais c'est aussi concrètement venir au secours des uns, aider le troisième, donner un coup de pouce par-ci, vraiment être dans la bienfaisance et dans la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le risque souvent, c'est qu'on a parmi nous, et même dans notre propre vie, des fois on est ou des Marthe ou des Marie. La Marie, elle était vite à genoux devant le Seigneur et elle écoutait le Seigneur parler. Hein. Pendant que la Marthe, elle travaillait dans les cuisines. Elle faisait la manger, la popote, les rejetis, et le fromage, et la tartiflette. Et à un moment donné, elle dit, mais Seigneur, mais enfin, c'est pas possible. Hein. Non, écoute, moi je bosse comme une folle et elle... Rappelons Marthe que d'être assis au pied de Jésus, devant sa Bible, être dans sa chambre haute, à le prier seul, c'est aussi adorer Dieu. Savoir s'arrêter dans son activité quotidienne et de prendre du temps avec Dieu, c'est adorer Dieu. Et aux autres qui sont des contemplatifs, qui aiment plutôt le côté un peu, j'aimerais dire, retrousser les manches, prendre un balai, nettoyer l'église, c'est aussi adorer Dieu. Amen. Donner un coup de pouce au frère qui a besoin qu'on lui donne un coup de pouce pour faire son bois à la fin de l'année, c'est aussi adorer Dieu. Donner un billet de 50 euros à l'église ou à telle œuvre parce qu'on en a besoin, c'est aussi adorer Dieu. J'adore Dieu là aussi. Et du coup, j'adore Dieu pas seulement le dimanche matin à l'église, tout au long de la semaine, je l'adore. Tout le temps et continuellement, je l'adore. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'adoration. Les deux vont de pair, à la fois le contemplatif et l'actif. Les deux se sont liés et vont de pair. J'aimerais conclure. Nous avons été programmés pour être des adorateurs. On peut dire ça ? Nous avons été ainsi faits. Programmé pour être des adorateurs, et nous le faisons constamment, en tout lieu, en tout instant, consciemment ou non. Ce qui pour nous a le plus de valeur, c'est ce que nous adorons. Je voudrais qu'on ait un instant le courage de faire un examen de conscience et se poser la question, qui est-ce que j'adore ou qu'est-ce que j'adore ? Nous avons été programmés pour être des adorateurs. Dites-moi où vous passez. Dis-moi Claude, où passes-tu ton temps, ton énergie, ton argent, ta sueur, et je te dirai ce que tu adores réellement, ce qui est assis sur le trône de ton cœur. Et ce qui est assis dessus va déterminer tes actions et ton style de vie et finalement ton destin. On ressemble toujours à ce qu'on adore. Le diable cherche ton adoration de gré en te tentant. Si tu m'adores, tu auras tout ça, ou de force. Parce qu'à la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, lorsque le diable aura mis en place un gouvernement mondial et qu'il y aura la bête et qu'il y aura des marques sur le front et sur la main, tous ceux qui ne l'adoreront pas seront mis à mort. Et il lui fut donné l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Autrement dit, ou tu adores ou on te tue. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, il veut susciter en nous une adoration qui découle de la croix, parce qu'à la croix, il nous a tellement aimés qu'il nous a arrachés de la vaine manière de vivre. Il nous a arrachés de la mort éternelle. Et maintenant, nous avons été plantés dans son jardin. Nous sommes devenus des térébintes de la justice. Et maintenant, nous sommes invités à l'adorer par amour. Adorer celui qui est le fidèle et le véritable. Adorer celui qui est l'humble par excellence. À celui qui est humble, qui me lave les pieds. Le diable, mon ami, ne te lavera jamais les pieds. Je voudrais finir par un texte dans Matthieu 10, versets 37 et 39. Adorer Dieu, c'est le préférer à toute autre chose. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son travail, sa carrière plus que moi. Celui qui aime son corps plus que moi. Celui qui aime sa télévision, qui aime l'internet plus que moi. N'est pas digne de moi. On pourrait continuer. Celui qui aime son fils et sa fille, celui qui aime son mari ou sa femme. J'ai vu des femmes adorer leur mari et devenir malheureusement des petits toutous. L'inverse étant vrai aussi, j'ai vu des maris adorer leur femme. C'est bien d'aimer vos femmes, mes frères. Aimez-les abondamment. Mais que Dieu garde dans vos cœurs la première place. Que Dieu garde la première place. Et alors votre femme prendra la bonne place, la seconde place. Elle a aussi une place à occuper. Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. Autrement dit, celui qui s'aime lui-même plus qu'il ne m'aime moi n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Et avec elle, il y a la présence de Dieu. Il y a l'avenir avec Dieu. Il y a la paix de Dieu dans nos vies. Et le soutien de Dieu et sa force. Alors je te pose une simple question. Qu'est-ce que tu adores vraiment? Qui adores-tu vraiment? Courbons nos fronts un instant.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Pain de vie, c'est toutes les nuits du lundi au vendredi dans la nuit autrement sur Phare FM à 1h15 et 4h15. La parole du jour plane au-dessus des soucis. Première partie aujourd'hui, ne manquez pas votre prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure après Neon, Feather et la chanson Safe.
When I'm living with the lights out, when the shadows cover me. When I'm walking through the valley, I won't fear my enemies. Cause everywhere I go, he's around me.
every step you go before, and even through the pain you remind me that every victory is yours. I know I'll be safe, I know I'll be safe with you, I know I'll be safe, I know I'll be safe with you, 'cause you stumble, you will catch me when I fall. Yes, everywhere I go, you surround me, and every step you go before, and even through the pain, you remind me.
Chaque jour, un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Planer au-dessus des soucis, partie 1. Bonjour à tous. Gladys Hayward a dit « L'aigle qui plane dans les airs ne s'inquiète pas comment traverser les rivières. » On ne peut pas échapper aux soucis qui nous assaillent de toutes parts et de différentes manières. Mais comme l'aigle, on peut s'élever au-dessus d'eux. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut par ses inquiétudes rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Versets 25 à 34.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, ma radio autrement.
Tout changer, c'était Malo sur Phare FM, 5h-10. Notre programme se poursuit. Les langages de l'amour, c'est tout à l'heure après Justin Bieber et la chanson Ghost. C'est tout de suite.
Touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more. There's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life.
still for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life.
Les langages de l'amour.
Diriger implique communiquer. Comme Christ aime l'Église et en prend soin, le mari doit aimer sa femme et subvenir à ses besoins. Mais comment un mari peut-il faire cela s'il ne connaît pas les besoins de sa femme? L'apôtre Pierre nous instruit à ce sujet. Nous devons nous conduire avec notre femme selon ce que nous savons d'elle. Cela signifie que nous devons prendre l'initiative de lui poser des questions, d'écouter ses réponses pour la connaître et ainsi pouvoir subvenir à ses besoins. Dieu ne nous invite-t-il pas à venir à lui pour nos besoins et de les lui faire connaître? Pourquoi le mari n'en ferait-il pas autant? Mise en pratique. Rentrez chez vous ce soir et dites à votre femme « Raconte-moi ta journée, chérie. » Regardez-la dans les yeux et écoutez. Puis demandez « Que pourrais-je faire ce soir pour te faciliter la vie ?» Puis, après l'avoir prise dans vos bras pour la soulever de terre, appliquez et faites ce qu'elle vous a demandé.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM.
Every day to live like you, die to myself, give your love away. And I wonder why I feel so empty inside. While I sing la 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 la, as the hungry roam the street. And we are still, but we're called to be a city on a hill. And as our melodies resound, we cannot hear the silent cry this world is screaming out. The hungry roam the streets, la 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 la. As the broken around their knees, la 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 la. We keep singing, but just a song won't heal the bleeding wounds. Church, wake up, we're sleeping.
Church, arise, arise and shine.
While We Sing Leland sur Phare FM. Il va être 5h et c'est dans quelques minutes que Bonjour Chez Vous va vous rejoindre, ainsi que Innocent dans Cocorico à partir de 5h30. J'étais ravie de vous accompagner, je vous retrouve dès lundi à minuit. En avance, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite aussi en avance un très très bon week-end. Merci de rester avec Phare FM, on écoute Red Walker, Young Love.
Some fire in our hearts, living on a prayer, wishing on a star. That summer love turned diamond ring. Been saying this since I was 17. When this young with a couple kids of our own, dug some roots down, now we're watching them grow. Everything has changed, but nothing's changed you and me. Nah, been saying this since I was 17. When this